Bon, merci à tous d'être là. Je me disais à l'instant qu'il aurait fallu qu'on invite Tam Kachai à cette conférence parce que je vais avancer un certain nombre des arguments qu'il a traités parce qu'ils sont utiles pour comprendre l'essor de ces manuels, de ces recueils de cas à la fin des mines.
Oui, Tam Kachai est un candidat, un jeune déjà, je crois qu'il a un poste d'assistant à Hong Kong.
L'université Chinese University.
Oui, enfin à Hong Kong en tout cas, et qui s'apprête à soutenir sa thèse sur le Meng Shui Jia Sundu, donc un de ces trois recueils de cas publiés par Des Tuyi Guan à Oxford à la fin du mois. C'est pour ça que je disais que j'avais la thèse en main, parce que je fais partie des examinateurs, mais on m'a dit surtout ne la montrer à personne et rendez-la au candidat quand c'est fini, etc. Ils sont très sérieux à Oxford. Donc voilà, c'est voilà de qui il s'agit.
Donc nous parlions ce matin du passage du registre théorique au registre pratique dans la carrière et dans ces manuels de fonctionnaires. Mon exposé sera quand même là, donc pour le cas, axé sur les questions pratiques. Donc j'ai intitulé cette communication « Rien n'échappe au filet du ciel », donc parce que le recours à l'aphorisme des filets du ciel qui est tiré du Lao Tzu, d'un aphorisme du Lao Tzu, ces filets du ciel qui sont d'apparence très lâches mais auxquels nul criminel ne peut espérer échapper. Cet aphorisme revient avec insistance dans la rhétorique judiciaire de Mao Yilu, qui est l'auteur dont je vais traiter, donc pour lequel nous n'avons pas de date de naissance et qui est mort en 1629.
C'est Tianwang.
Pardon.
Tianwang.
Tianwang. Oui, c'est Tianwang. L'aphorisme, enfin, qui est devenu un proverbe, c'est Tianwang Hui Hui Shuer Pulo. Donc, littéralement, les filets du ciel sont immenses, mais rien n'y échappe. Donc Mao Yilu est l'auteur d'un recueil de cas judiciaires du tout début du XVIIe siècle, et cette métaphore y résonnait à la fois comme une mise en garde adressée à tous les criminels, comme une affirmation du bien fondé et de l'équité des jugements prononcés par le magistrat, et comme la célébration de ses propres compétences, au premier rang desquelles une aptitude unique à discerner par-delà les apparences les motivations profondes de ceux qui se présentaient devant son tribunal. Alors nous savons peu de choses de la vie de Mao Yilu, je vais commencer par là, dont il ne subsiste que deux biographies. Vous avez sur la petite fiche que je vous ai distribuée des renvois assez succincts à ces deux biographies, ainsi qu'aux éditions de l'ouvrage dont il est question. Donc il naquit à Suiyan, donc dans la province du Zhejiang, à une date inconnue. Il obtint le grade de docteur, donc le grade de Tianshe, en 1604. Et sa première affectation, puisqu'on parlait des premières affectations en tant que Tuyi Guan, lui sa première affectation fut celle de Tuyi Guan dans la préfecture de Songjiang, donc dans le Nanzheli, dans une région cruciale. Donc, et il occupa cette fonction de 1606 à 1610, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même deux années de battement entre l'obtention du Tianshe et sa première affectation. Ce qui pourrait être intéressant de voir si on avait des éléments sur cette question, c'est ce que faisaient les magistrats entre l'obtention du grade de Tianshe et leur première nomination. On parlait des problèmes de formation pratique. Il est possible qu'en dehors des mondanités, durant cette période de transition, dans son cas à 2 ans, il ait suivi des stages où...
Oui, tout à fait. C'est ce que disait Tom tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il devait... Guanzheng, donc aller voir le gouvernement dans diverses institutions.
Donc c'est là, à Songjiang, qu'il se forgea une réputation de magistrat hors pair, de fonctionnaire intègre et aussi de patron pour tous les étudiants de Songjiang, à tel point, nous disent ses biographes, que nombre d'étudiants de la préfecture lui devraient leur succès aux examens, et même longtemps après son départ. Une stèle fut érigée à sa mémoire qui vante essentiellement ses qualités de pédagogue et de juge. Fort de cette réputation, qui fut reconnue, semble-t-il, par ses supérieurs et ses préfaciers, qui étaient d'ailleurs les mêmes, puisque les deux préfaces qu'on a de l'ouvrage ont été rédigées, je crois, par le gouverneur provincial et un autre de ses supérieurs. Donc, fort de cette réputation, il gravit les échelons jusqu'au poste de Xunzao Yushe, donc le censeur en charge des transports du grain, à la fin de l'ère Wanli, puis de grand coordinateur de Yingtian, donc du Nanzheli, grosso, je pense. Donc il occupait un poste de Xunfu. Et là, c'est au cours de l'ère Tianqi. C'est alors qu'il est connu aussi pour avoir pris le parti de Wei Zhongxian contre le Tonglin et pour avoir érigé une stèle du vivant de Wei Zhongxian à sa mémoire. Une stèle qui fut reconvertie par la suite en mausolée à la mémoire des martyrs du Tonglin. Donc je ne me souviens plus où se trouve cette stèle.
Joli coco.
C'est ce qui lui valut notamment d'être attaqué ensuite au début de l'ère Chongzhen et de finir sa carrière loin de l'administration. Mais avant d'être impliqué dans ces intrigues politiques, il jouissait d'une excellente réputation et décida donc au cours des années 1610 probablement de compiler un recueil de cas judiciaires, des cas judiciaires sur lesquels il eut à se prononcer alors qu'il était seulement juge préfectoral. Donc ce recueil s'intitule donc le Yun Tian Yan Lue, qu'on pourrait traduire par bref avis de la cour judiciaire de Songjiang, si on devait proposer une traduction. Donc la fin des Ming, on l'a vu, connut un foisonnement de publications pédagogiques et techniques, et notamment de celles destinées à tous les praticiens du droit. On peut mentionner les éditions commentées du code pénal, les manuels pour avocats, maîtres de chicane, selon la traduction qu'on souhaite garder, mais aussi une florissante littérature romancée en langue vernaculaire, comme les fameux Kongan, qui était très en vogue à l'époque, et on trouve également des rééditions de recueils de cas des dynasties antérieures et des anthologies de cas de la dynastie, des cas modèles, des cas rejetés ou des cas examinés par un fonctionnaire réputé pour ses compétences. Donc c'est à cette dernière catégorie de recueils de cas judiciaires, autant destinés à édifier les futurs magistrats qu'à assurer la gloire de leurs auteurs, qu'appartient ce Yun Tian Yan Lue. Selon un récent sondage publié dans un ouvrage récemment publié, une petite liste est apparue. Il semblerait qu'on n'ait aujourd'hui que six collections de recueils de cas judiciaires des Ming à proprement parler. Alors je vais revenir sur l'essor de cette littérature et sur l'essor des recueils de cas à la fin des Ming à travers les arguments avancés par Tam Kachai dans un article qui devrait paraître cette année, dont vous avez une référence aussi succincte dans la petite fiche que je vous ai donnée. Donc on pourrait éventuellement... Donc l'essor de cette littérature est en partie tributaire du développement de l'imprimerie sous les Ming et du succès commercial de certains auteurs, comme celui justement du Zhou Yuxin Yu dont on parlait tout à l'heure. Mais ces facteurs ne suffisent pas, à mon avis, à expliquer cet essor ni à rendre compte des conditions dans lesquelles il prit forme ou des besoins spécifiques auxquels il répondait. J'évoquerai simplement ces trois facteurs avancés par Tam dans un article à paraître et qui sont liés aux évolutions d'abord du processus de sélection, ensuite des canaux de promotion et enfin de l'activité judiciaire des administrateurs de l'Empire. Donc l'essor et le succès de ces publications fut tout d'abord favorisé par une introduite, si l'on suit Tam, d'une évolution introduite au cours de l'ère Wanli dans les épreuves dites pratiques des concours mandarinaux. Donc on parlait de la question des épreuves pratiques et de leur rôle dans les examens mandarinaux. Là, Tam Kachai a un argument assez peut-être un peu extrême sur la question. Mais il voit à l'époque Wanli se dessiner une mutation dans les épreuves pratiques du Pan-Yu, dans les épreuves dites juridiques. Donc ces épreuves au début de la dynastie étaient des épreuves juridiques où on demandait aux candidats de commenter, enfin d'identifier et de commenter des extraits du code. Mais sous Wanli, apparemment, elle se mit en une véritable épreuve de composition judiciaire destinée à évaluer non plus leur connaissance de la loi, mais leur aptitude à l'appliquer à un cas fictif et donc à évaluer leur capacité. Cette évolution reprenant ce qui se faisait déjà sous les Tang pour les épreuves judiciaires dont on conserve par exemple la collection de recueils judiciaires de Pai Tui, le Pai Tao Pran. Et pour répondre à cette exigence nouvelle qui conditionnait d'après Tam Kachai le classement au concours des examens mandarinaux, d'après lui, là je pense qu'il va un peu trop loin, cette mutation et cette épreuve judiciaire aurait pris une telle importance qu'elle aurait un impact plus important sur le classement définitif des candidats. Ça reste à vérifier, il faudrait voir ce qu'il en dit. Donc, mais apparemment, ça joua un rôle important dans le développement de ces recueils de cas judiciaires. Alors, l'essor de ces publications est également dû, toujours à l'Erwanie, à une autre évolution significative dans les canaux de promotion des fonctionnaires. Et là, on en revient à la carrière des Troïguan et des magistrats. A priori, jusque sous l'Erwanli, les magistrats et les Troïguan auraient eu des perspectives de carrière relativement limitées. C'est un des arguments de Tam. Et il voit apparaître à l'Erwanli une procédure qui est nommée Twige, Singchu, que vous avez dans la liste de vocabulaire. Et qu'on pourrait traduire par sélection des fonctionnaires de l'administration centrale parmi les magistrats de district et les juges préfectoraux. Une nouvelle procédure qui modifia profondément la donne en ouvrant une voie d'accès privilégiée aux postes recherchés mais craints de censeurs ou de censeurs des ministères, donc les Tianxiaoyuche ou les Tishezhong. D'après Tam, toujours, les fonctionnaires qui étaient nommés au poste de Troïguan et au poste de magistrat étaient essentiellement issus du troisième rang, de la troisième liste au classement des examens. Ce qui est apparemment... Oui, vous avez dit le deuxième. D'après lui, ça rendait assez jaloux ceux qui étaient classés en deuxième et qui avaient... C'est possible. Là encore, il faudrait voir. Donc si on examine par exemple le parcours de Mao Yilu ou d'autres Troïguan célèbres comme Tibiaotia qu'on a déjà mentionné, on constate en effet qu'au début du XVIIe siècle, nombre de ces Troïguan firent ensuite une partie de leur carrière dans le censorat. Mais encore fallait-il que ces censeurs en puissance fassent au préalable la preuve dans leurs premières affectations de leur talent de juge. Les fonctions de censeur exigeaient notamment de superviser une partie de l'activité administrative, à les autoriser à rouvrir des dossiers, à examiner les appels, à confirmer ou infirmer des jugements. Donc il leur fallait à tous ces magistrats nommés à des postes de l'administration locale faire la preuve, la démonstration de leur capacité à juger correctement. Mais juger correctement ne consistait pas simplement à rendre un verdict, cela supposait d'abord de satisfaire aux exigences de la procédure. Il fallait par exemple respecter les délais, entendre les témoins, interroger les accusés, assister en personne aux autopsies dont on a parlé ce matin, examiner les pièces apportées au dossier, etc. Il fallait ensuite dégager des faits, des circonstances et se forger une opinion quant aux responsabilités ou aux culpabilités, puis proposer un jugement conforme à la loi. Mais là encore, se conformer à la procédure ne suffisait pas, il fallait aussi se montrer capable de composer et de rédiger un dossier conforme aux attentes des instances supérieures. Chaque pièce versée à un dossier, des dépositions à la proposition de jugement, devait contribuer à brosser un tableau clair de l'affaire, un tableau univoque et exempt de contradictions. Et ce n'était pas une simple question de rhétorique ou de formulation. Le fil de la narration proposée dans un dossier devait éliminer tous les doutes, conduire à une seule qualification possible, induire l'invocation exclusive d'une loi et rendre irréfutable le choix de la sentence proposée. Juger correctement consistait à savoir invoquer la loi. Chaque jugement devait en effet reposer sur l'invocation d'une des 460 lois du Code des Grandes Mines ou d'une loi secondaire et éventuellement sur une analogie avec celle-ci. Je dis éventuellement parce que je pense que l'exercice était assez risqué pour celui qui osait proposer une analogie avec les lois. Le choix d'invoquer telle loi plutôt que telle autre, conditionné par l'examen et l'appréciation des circonstances, était donc un élément crucial dans le jugement. Mais c'était aussi le plus délicat. L'un des principaux problèmes qui se posait aux magistrats était notamment de savoir quel article invoquer dans les cas nombreux qui n'étaient pas expressément prévus par la loi. Juger correctement était l'une des tâches principales dévolues aux fonctionnaires locaux, donc à ces Troïguan, mais aussi aux magistrats qui jugeaient en première instance. Les Troïguan, comme nous l'a montré Thomas Nimick, jugeaient souvent en deuxième, troisième, enfin apportaient un avis au jugement, souvent en deuxième ou troisième instance. Et on faisait également appel, comme vous l'avez montré, pour leur expertise judiciaire. Donc le fait de juger devint probablement un peu plus difficile au cours du dernier siècle de la dynastie Ming, en raison d'abord des mutations sociales et économiques que connut la Chine de cette époque, et qui confrontèrent les magistrats à des situations totalement inédites et évidemment non prévues par le Code. C'est aussi à cette époque que commencèrent à s'élever avec insistance des critiques contre le manque d'expertise des magistrats, leur méconnaissance de l'intention des lois et leur tendance parfois à tourner la loi comme bon leur semblait. Et ces mêmes critiques exigeantes d'une part, que leur activité judiciaire soit plus étroitement contrôlée, et d'autre part, que les lois fassent l'objet d'interprétations plus standardisées. Le but était d'éliminer les zones d'ombre et les interprétations abusives de juges mal formés ou cherchant à détourner la loi. Et donc c'est aussi à cette époque qu'on voit apparaître des commentaires du code qui restèrent comme des modèles de commentaires du code qui continuèrent à être utilisés par la suite. Donc soumis à plus d'exigences quant à leur maîtrise du droit, confrontés à une société plus complexe, à une inflation des procédures, si l'on en croit leurs fréquentes complaintes, et à des contrôles plus fréquents, la situation des magistrats postés en première ligne sur le front judiciaire commença à devenir plus précaire. Juger correctement n'avait rien d'une simple exigence rhétorique. Une erreur dans la procédure, un dépassement de délai, une incohérence dans le dossier, une interprétation erronée du code, une mauvaise invocation de la loi ou encore une analogie mal tournée, c'est toute l'affaire qui devait être revue. Les conclusions risquaient alors d'être rejetées, le magistrat se voyait souvent contraint de revoir l'affaire et outre ses tracasseries et les délais que ça impliquait, cela pouvait impliquer aussi des sanctions et si elles se répétaient, des sanctions plus graves, voire des révocations. C'est donc en partie pour répondre à ces nouvelles difficultés que fleurirent les commentaires du code et les recueils de cas judiciaires à la fin des mines. Quel meilleur guide en effet pour juger correctement que les exemples de jugements rendus par d'autres magistrats. Même s'ils ne pouvaient pas être invoqués directement ni même mentionnés pour rendre un nouveau verdict, ces exemples de cas rejetés ou de cas modèles permettaient aux magistrats de s'imprégner de l'intention des lois. Ils leur permettaient aussi d'observer l'articulation entre théorie et pratique judiciaire, ou simplement de trouver des analogies pour rendre leur propre verdict et proposer des jugements corrects et par conséquent limiter les tracasseries administratives et l'extension des délais et l'accumulation de leur travail. Donc les recueils de cas judiciaires n'enseignent pas uniquement à juger correctement, à formuler un verdict ou à se conformer à l'esprit et à la lettre de la loi. Ils avaient également pour utilité d'apprendre aux magistrats à juger avec équité. Et ça, c'est ce qu'a montré récemment un article de Tian Yonglin et Wu Yanhong dans l'ouvrage Thinking with Cases, dont je vous ai mis la référence sur la petite fiche. Dans cet article, il développe notamment l'articulation entre loi, fa et qing, les sentiments qu'on pourrait aussi traduire par circonstances et qui étaient aussi souvent des circonstances. Pénétrer les circonstances ou les sentiments humains qu'on retrouve dans l'expression ta zhen qing, souvent dans les cas judiciaires, n'était pas une obligation dans l'élaboration d'un jugement, mais c'était une qualité qui faisait la réputation d'un bon juge et qui faisait la différence entre un juge simplement bon et un juge de très grande qualité. Et cette aptitude, cette capacité à faire la balance entre les circonstances particulières d'un cas et les obligations imposées par la loi, devait sans doute être appréciée par les instances supérieures, mais elle devait aussi s'apprendre. Et quoi de mieux, là encore, pour apprendre à faire cette balance entre fa et qing que de se reporter au jugement modèle d'autres magistrats. C'est en tout cas cette aptitude à toujours trouver l'équilibre entre fa et qing qui valut à Mao Yilu sa réputation de juge modèle, puisque j'en reviens à Mao Yilu, si l'on en croit ses préfaciers et ses biographes. C'est aussi cette qualité qui fait aujourd'hui du Yuntian Yanlue une source importante pour l'histoire de la pratique et du raisonnement judiciaire. Ainsi que l'ont montré Tian Yonglin et Wu Yanhong, la nécessité d'invoquer des lois codifiées n'était pas totalement incompatible avec le sens du juste ou le sens de l'équité. Ils ont également montré que les magistrats disposaient tout de même d'une certaine latitude pour nuancer la portée d'un jugement imposé par le code. Mais si je pousse le raisonnement un petit peu plus loin, une fois qu'on a fait cette démonstration, on pourrait encore en tirer de nouvelles conclusions quant à ce qui paraissait juste, à ce qui paraissait exemplaire ou simplement acceptable, ou au contraire condamnable aux yeux d'un fonctionnaire de la fin des mines. Et ce qui nous pousse aussi, si on continue ce raisonnement-là, ce qui peut nous pousser à nous intéresser à l'image qu'un ouvrage comme le Yuntian Yanlue nous renvoie de la société de l'époque. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'aborder cette vaste question par un angle relativement restreint, celui de la question de la servitude à la fin des mines, dont je donnerai quelques exemples après. Donc la démarche qui consiste à faire parler, à faire usage des sources judiciaires pour éclairer la connaissance que nous avons de l'histoire chinoise est, en est encore à ses débuts. Elle en est assez, plus assez, assez balbutiement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Elle a permis notamment d'affiner nos connaissances sur des sujets comme la transmission du patrimoine, l'héritage, les pratiques liées au prêt et à l'usure ou à la place des femmes dans la société. Pour le moment, fort peu de chercheurs se sont penchés sur les recueils de cas de la fin des Ming et sur le Yuntian Yanlu en particulier. Je pense que le seul article publié sur le Yuntian Yanlu est justement celui de Tian Yonglin et Wu Yanhong. Sans doute parce que jusqu'à la publication de cet ouvrage dans une collection dirigée par Yang Yifan, il demeurait disponible en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de Chine. Donc relativement peu disponible. Donc le seul exemplaire qui nous est parvenu est un exemplaire incomplet. L'ouvrage se présente en 10 tuens dont seuls 8 nous ont été transmis. Les tuens 5 et 6 sont manquants. Et sur un total de 321 documents que comptait l'original, seuls 171 sont présents dans l'exemplaire encore conservé, si l'on en croit la table des matières qui, elle, paraît complète. L'une des particularités du Yuntian Yanlu est de ne pas être exclusivement un recueil de cas judiciaires. C'est ce que vous disiez ce matin, les recueils de cas judiciaires, je crois, dans la bibliographie, sont classés dans les Kongdu.
C'est un sous-ensemble des Kongdu.
En tout cas.
Non, ils sont classés. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dans la mesure où beaucoup de collections de Kongdu contiennent également une partie de cas. Et j'ai mis dans la section alors, des outils de travail juridique les cas exclusivement de recueil de.
D'accord. Et donc celui-là apparaît dans la catégorie des Kongdu parce que le dernier tuan uniquement est une petite anthologie des documents administratifs de Mao Yilu.
Ça, on peut le changer. Voilà.
Oui, donc les 9 premiers tuens de l'ouvrage sont composés de cas judiciaires. Le dernier est une anthologie de correspondance administrative entre Mao Yilu et ses supérieurs ou de proclamations rédigées par l'auteur. Pour ce qui est de la nature des documents que je nomme ici cas judiciaires, il ne faut pas s'attendre à des archives brutes ou à des minutes de procès ou à des verdicts. Les cas regroupés dans le Yuntian Yanlu sont exclusivement des yanyu, ce que l'on pourrait éventuellement traduire par attendu de jugement, mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure traduction. En tant que juge préfectoral, Mao Yilu n'opérait pas en première instance, comme je l'ai dit. Sa principale activité consistait à se prononcer sur des affaires transmises par les autorités provinciales au cours de procédures d'appel et de révision ordinaire. Il était également parfois saisi pour des affaires qui ne relevaient pas de sa juridiction en raison de sa réputation en matière judiciaire. Et lorsqu'il rédigeait son jugement, Mao Yilu devait rédiger normalement 2 pièces distinctes. Un verdict, la pièce qu'on appelle le Zhaoni, et un yanyu, donc un attendu. Ces 2 pièces devaient théoriquement figurer au dossier transmis aux autorités provinciales pour approbation. Ces attendus étaient habituellement énoncés aux parties en présence, à la fin de l'affaire, mais à la différence du verdict, donc du Zhaoni, qui énonçait précisément la sentence et retraçait le détail des faits, les yanyu servaient avant tout à motiver le jugement prononcé par le magistrat. C'est la différence principale entre ces 2 pièces. Dans ces attendus, il se contentait de résumer l'affaire, de faire ressortir les faits, les circonstances et les articulations décisives qu'il conduisait à son verdict, et il n'indiquait que rarement la sentence impliquée par son jugement. Par exemple, dans le cas d'une peine d'exil, il indiquait qu'il allait proposer une peine d'exil dans le yanyu, et il allait donner exactement la peine, il allait calibrer la peine dans le Zhaoni en indiquant qu'il s'agirait d'une peine d'exil de 3 ans, de 2 ans, de 2 ans et demi. Donc c'est ce qui fait du Yuntian Yanlu une formidable source pour l'étude du raisonnement judiciaire à la fin des Ming. Mais c'est aussi ce qui en fait une source parfois difficile à manipuler, dans la mesure où, à la seule lecture de ces pièces, certains détails des affaires dont elles rendent compte demeurent obstinément obscurs. Un problème qui ne se posait évidemment pas aux instances supérieures chargées de donner suite à l'affaire, puisqu'elles avaient à leur disposition, en plus de ces attendus, les verdicts, ainsi que les retranscriptions des dépositions et des témoignages, et éventuellement même les témoins eux-mêmes quand l'affaire était, quand les témoins étaient brinque-ballés de district en préfecture et de la préfecture à la capitale provinciale. Mais bon, faute d'autres pièces avec lesquelles recouper ces documents, il nous faut bien nous en contenter. Et l'on peut tout de même en tirer des éléments utiles pour confirmer, nuancer et parfois battre en brèche ce que nous savons ou croyons savoir de la société de cette époque et de ses pratiques. Donc, c'est ce que je voudrais montrer par quelques exemples. Par exemple, donc, les pratiques liées à la servitude y apparaissent sous un nouveau jour, sous un jour plus concret. Les relations interpersonnelles et la hiérarchie sociale ou familiale se manifestent parfois dans des configurations inattendues dans ces jugements. On peut surtout les voir opérer dans un contexte plus étroit, détaché des principes et des idées que nous nous faisons habituellement de ces pratiques de servitude. L'étude du Yin-Tien-Yin-Lue présente aussi un intérêt particulier pour l'histoire de la servitude du fait de la situation temporelle et géographique de l'ouvrage. Mao Yilu occupa le poste de juge préfectoral de Songjiang entre 1606 et 1610, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après une des monographies locales de Songjiang. Et c'est précisément dans le Jiangnan en général et à Songjiang en particulier que la servitude semble avoir été la plus répandue à la fin des Ming. Mais c'est aussi là que l'activité insurrectionnelle des dépendants, je préfère ce terme volontairement plus vague plutôt que les mots esclaves ou serfs, donc c'est là que l'activité insurrectionnelle de ces dépendants fut quelques 40 ans après la magistrature de Mao Yilu la plus violente. C'est là que nombre d'entre eux s'illustrèrent, notamment pour s'être rebellés contre leur maître, avoir formé des bandes, parfois même ouvert les portes des villes aux envahisseurs mandchous. Et si l'on ajoute à cela que les dépendants apparaissent dans très approximativement 10% des cas présentés dans le Yin-Tien-Yin-Lue, ce recueil s'avère être une source très précieuse pour étudier cette forme de servitude et éclairer la connaissance que nous en avons, et même la connaissance que nous avons des révoltes. 10% c'est quand même important, et comparativement à ce qu'on peut trouver dans la plupart des recueils de cas, c'est beaucoup. En général, on trouve peut-être une dizaine de cas sur plusieurs centaines. C'est assez rare d'en avoir autant. Donc je dirais quand même quelques mots de ces dépendants avant d'en venir à un exemple de ce qu'on peut tirer du Yin-Tien-Yin-Lue. Donc j'ai dit qu'on les nommait parfois esclaves ou serfs en français, ce qui est problématique, mais parce qu'aucun de ces termes ne rend vraiment compte, ne donne une idée précise de la réalité couverte par les termes chinois que sont Nupi, Nupu, que vous avez dans la liste. Ces dépendants appartenaient à une couche de la population appelée Tianmin, donc la population inférieure, Tian renvoyant ici à l'idée de qualité dégradée ou inférieure. Donc ils appartenaient à une couche inférieure par opposition à la population ordinaire, au bon peuple, nommé lui Shumin ou Liangzhen. Du point de vue du droit, le statut des Tianmin ainsi que les différentes catégories que ce terme englobait n'est malheureusement pas très clair. Le code des Ming était prescriptif et non descriptif. Donc il définissait des crimes et des délits et prévoyait des peines pour chacun d'entre eux. Mais il s'adressait avant tout à une population à laquelle il n'était pas nécessaire d'expliquer ces choses-là. Il est donc parfaitement inutile d'y chercher une définition claire des catégories de personnes, des professions ou des activités qui rentraient sous la dénomination des Tianmin. Mais une chose est assez claire, c'est que les dépendants étaient les principaux représentants, les Nupi étaient donc les principaux représentants de cette catégorie dans le code pénal. La distinction entre Liangmin et Tianmin était la principale ligne de fracture dans la hiérarchie sociale de l'époque. On a souvent l'habitude d'entendre, d'articuler la hiérarchie sociale de la Chine impériale en établissant une opposition entre élite lettrée et population ordinaire. Mon impression est qu'il y avait quand même une ligne de fracture beaucoup plus importante entre les catégories inférieures et l'ensemble de la population ordinaire à laquelle appartenaient aussi les fonctionnaires. Cette distinction entre Liangmin et Tianmin reposait avant tout sur une conception de l'avilissement et sur une forme d'avilissement tant physique que morale, parce que les Tianmin sont souvent mis en parallèle avec les criminels. On trouve un parallélisme qu'on trouve notamment dans le manuel des directeurs des études, donc le Xuezheng Quanshu, qui est un ouvrage des Qing qui était censé couvrir toute la réglementation concernant spécialement les examens, et pour lequel on n'a pas d'équivalent à ma connaissance pour les Ming. La section sur les statuts, on peut voir se dessiner assez précisément autour de la question de l'exclusion des concours mandarinaux un parallélisme entre statut des criminels et statut des inférieurs. Un parallélisme qui s'articule notamment autour des notions d'avilissement et de dégradation. Et si l'on égrène souvent la longue liste des incapacités ou des discriminations juridiques qui pesaient sur les tiémines pour définir leur statut, par exemple l'interdiction de se marier avec des sujets ordinaires, les peines plus lourdes, une protection juridique moindre ou des discriminations même vestimentaires. Si on égrène souvent la liste de ces incapacités, on oublie souvent qu'une somme d'incapacités justement ne fait pas un statut. Et commencer par comprendre que cette discrimination était intimement liée à la notion d'avilissement nous permet de constater que ces discriminations ou ces incapacités juridiques n'étaient que les manifestations de ce statut. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'accumulation de ces discriminations ou de ces incapacités juridiques qui faisaient le statut des dépendants ou des tiémines. Pour moi, ce ne sont que des manifestations de ce statut qui est à chercher ailleurs, je pense, dont les origines et la nature doivent être cherchées ailleurs. Alors, dans la pratique, les dépendants occupaient toutes sortes de fonctions, qui allaient du service domestique à la gestion des domaines, en passant par la sécurité, l'agriculture, le commerce. Ils vivaient dans des conditions extrêmement variables, de la plus grande misère au luxe le plus ostentatoire pour certains gérants de domaine. À la différence des foyers ordinaires, ils n'avaient pas de registre propre. Ils ne constituaient donc pas des foyers, ils n'étaient pas enregistrés en tant que foyers, et ils faisaient partie intégrante de la famille de leur maître auprès de laquelle ils étaient enregistrés. Cependant, si la relation qui les unissait à leur maître s'inspirait parfois du lien naturel et assimilait parfois les obligations d'un dépendant envers son maître à celles que pouvait avoir un fils pour son père, on a souvent ce parallélisme entre obligation du fils et obligation du dépendant vis-à-vis du chef de famille, ils ne jouissaient certainement pas des mêmes prérogatives, notamment en matière d'héritage, de perpétuation de la lignée, etc. Ils demeuraient quand même, à mon sens, des étrangers au sein de la famille et relevaient plus de la sphère domestique que de la sphère familiale, même si, comme nous le verrons un petit peu plus loin, l'imitation du lien familial n'est pas sans ambiguïté et pose quand même certains problèmes pour comprendre leur place au sein de la famille. Alors, cette servitude était souvent héréditaire, mais elle ne l'était pas toujours. Cependant, même lorsqu'un dépendant obtenait son émancipation, il demeurait soumis à certaines obligations envers son maître, et principalement d'un point de vue hiérarchique et rituel. Un dépendant émancipé qui établissait son foyer était souvent tenu par des obligations rituelles vis-à-vis de son maître, de lui faire des présents lors de cérémonies, et un certain niveau hiérarchique se maintenait quand même malgré tout, malgré l'émancipation. Quant aux descendants d'indépendants, ils ne pouvaient pas se présenter aux examens avant la quatrième génération après cette émancipation, une règle qui reposait probablement sur l'idée que le lien de dépendance ne pouvait prendre fin tant qu'il demeurait incarné soit par le maître, soit par son esclave. On estimait probablement qu'il fallait au moins 3 générations pour que au moins un des deux ait disparu. Mais cette règle s'explique également en raison du fait que certaines distinctions conférées aux fonctionnaires pouvaient être étendues à titre posthume à leurs ancêtres sur 3 générations. Et ça, c'est clairement dit dans le manuel pour les directeurs des études sous les Qing. Là, j'ai rien trouvé pour l'époque Ming, mais cette possibilité est envisagée et clairement invoquée comme une raison empêchant les descendants d'indépendants de se présenter au concours mandarinaux jusqu'à la quatrième génération. Cette servitude, et j'en terminerai avec la présentation de cette forme de servitude, elle était également contractuelle. À l'instar de toute relation familiale contractuelle, comme le mariage ou l'adoption, la relation qui unissait un maître à un dépendant reposait sur le lien d'obligation réciproque, donc le principe de yi. J'espère que je vous ai mis le caractère dans la liste, mais je ne crois
quel
pas
caractère
celui-là.
Oui, oui, il y est.
Contractrice adoptive. Et ce lien d'obligation réciproque, seul le maître pouvait le briser. Comme seul un époux pouvait répudier ou décider de divorcer de son épouse, ou comme seul un père adoptif pouvait mettre fin à l'adoption. Donc plus qu'une convention formelle énumérant des clauses particulières et exhaustives, les contrats de servitude symbolisaient l'acceptation de cette relation d'obligation et de tout ce qu'elle induisait de manière tacite. Ce lien d'obligation réciproque allait également de pair avec un autre principe essentiel, celui de distinction des rôles entre maître et dépendant, et donc c'est ce qu'on appelle le principe de Zhu Pu Ming Fen, que vous avez dans la liste également. L'idéal d'harmonie sociale fondée sur les rites impliquait un strict respect de la hiérarchie dans les relations interpersonnelles. En société ou au sein de la famille, chacun devait se conformer à son rôle. Un père devait agir en père, un fils en fils, et de fil en aiguille, un dépendant devait se conformer à son rôle de dépendant. Il se devait de traiter chaque membre de la famille de son maître en aîné et en supérieur, donc en zunzhang. Il devait également se satisfaire de son sort, c'est la notion de anfen. Obéir aux ordres qui lui étaient donnés et s'acquitter de sa tâche, eu égard pour les bienfaits prodigués par son maître, qui pour sa part devait en retour lui fournir vêtements et nourriture et l'entretenir avec bienveillance. Là, c'est l'idée de un yang, entretenir avec bienveillance, qui est souvent invoquée dans cette réciprocité de la relation entre maître et dépendant. D'une part, des obligations, et de l'autre part, pour le maître, l'obligation de faire preuve de bienveillance. Cependant, la conception du rôle dévolu au dépendant n'était pas formalisée ni universelle. Chaque lignage avait sa propre manière de l'aborder, en la consignant par exemple dans des règlements familiaux ou des lois claniques, dans les fameux tiafa ou les zukwe. Pour donner un exemple de l'articulation entre lien d'obligation et distinction des rôles, on peut mentionner une des lois du code, la loi intitulée Kanming Fanyi, dont je vous ai donné le titre dans la liste du vocabulaire. Donc on la trouve au Tuan 22 du Taming Lu, dans la partie pénale, à la section sur les plaintes, puisque c'est cette loi qui interdisait à un fils de porter plainte contre son père et à un dépendant de porter plainte contre son maître. Donc on voit là dans ce titre Kanming Fanyi, qu'on peut traduire par faire offense au nom ou au rôle et violer le lien d'obligation, cette articulation entre l'idée de Ming Fen et le principe de Yi. Donc très schématiquement, les travaux menés sur les dépendants de la fin des Ming nous renvoient l'image d'une classe exploitée, opprimée, tenue sous le joug du féodalisme et du patriarcat. D'ordinaire, ces études s'appliquent à peindre une forme de servitude des plus contraignantes, comme le dernier espoir de survie pour des cohortes de paysans pauvres chassés de leurs terres par le poids de la fiscalité et la concentration des terres, sans autre horizon pour eux-mêmes ou leurs descendants que la servitude, les humiliations et les mauvais traitements. À telle enseigne que certains historiens n'ont pas hésité à les comparer à des serfs, à des esclaves et même parfois à du bétail. On a pu lire dans certains travaux un parallélisme entre la loi qui interdisait de sacrifier une bête ou de tuer un buffle ou un bœuf et l'interdiction de tuer un dépendant. Ce qui a fait dire à certains historiens qu'un dépendant ne valait pas mieux qu'un bœuf. Et de démontrer pour ces historiens que l'oppression inhumaine qu'ils étaient chaque jour plus nombreux à subir fit naître automatiquement, nécessairement et inévitablement chez eux une conscience de classe, un esprit quasi révolutionnaire et qui devait inévitablement s'exprimer à la fin de la dynastie, lors de la période de transition dynastique, par des révoltes de dépendants dans le Tiangnan, mais aussi dans d'autres régions. On en trouve ces révoltes de dépendants qu'on nomme Nubian, on en trouve du Shandong au Guangdong et majoritairement sur tout le bassin du Yangtze, bassin inférieur et du moyen Yangtze. On ne peut pas rejeter en bloc cette analyse, mais à mon avis elle dessert tout de même l'étude de cette forme de servitude puisqu'elle a pour résultat d'occulter certains de ses aspects pourtant essentiels. Elle occulte par exemple le fait que cette servitude n'était parfois qu'un expédient temporaire pour certains dépendants. En insistant sur le caractère rigide, héréditaire, contractuel de la servitude, j'ai l'impression qu'on laisse passer certaines pratiques et certaines réalités, et lorsqu'on lit un recueil de cas comme le Yun Tian Yalu, on se rend compte que cette servitude était extrêmement répandue, extrêmement ordinaire, et qu'elle n'était pas forcément conçue comme quelque chose de définitif. Euh, Cette approche occulte aussi le fait que cette forme de servitude prenait des formes extrêmement diverses et que les dépendants qui se rebellèrent à la fin des Ming exigeaient parfois seulement un assouplissement de leurs conditions de rachat. Là encore, on a insisté sur les exigences en termes de liberté, d'émancipation, d'émergence d'une conscience de classe. Et si on lit les récits de ces révoltes à la fin des Ming, on se rend compte que souvent, la première exigence des dépendants, c'était avant tout un assouplissement des conditions de rachat. C'est-à-dire que le maître ne puisse pas s'opposer automatiquement de manière exclusive au rachat d'un dépendant si celui-ci avait les moyens de se racheter. Ce qui contredit un petit peu cette idée qu'on se fait d'un mouvement pour la liberté qui était aussi parfois très opportuniste. Donc, je vais prendre quelques exemples de ce que peut nous apporter un ouvrage comme le Yun Tian Yan Lue. Je vous demanderai de tourner la fiche que je vous ai donnée. Vous avez un petit graphique si vous voulez suivre le cas judiciaire dont je vais traiter. Donc par l'affaire de Sun De contre les frères Sun Zong et Sun Xia. Donc, c'est le cas numéro 10 dans le premier tuan du Yun Tian Yan Lue. Ce n'est pas un cas très complexe. Seulement, comme je l'ai dit, les documents présentés dans le Yun Tian Yan Lue sont assez lacunaires. La trame de l'affaire est souvent lacunaire, puisque le magistrat cherchait Mao Yilou cherchait seulement à en tirer les articulations décisives pour son jugement. Ce qui fait qu'il fait référence à des éléments de l'affaire qui ne sont pas décrits, qui ne sont pas définis et qui ne sont pas exposés en détail, et qu'on est obligé en quelque sorte de deviner ou par déduction. Donc l'exposé lacunaire des circonstances et des incriminations implique une lecture attentive de l'affaire et contraint à échafauder quelques conjectures. À l'origine de cette affaire, on trouve un contrat par lequel Sun Cheng, que vous avez sur le graphique, s'était vendu à un autre dénommé Sun, dont le prénom n'est pas précisé. Sun Cheng eut par la suite deux fils, un aîné nommé Tia, qu'il adopta, et un cadet nommé Zong, qui est un fils naturel. La configuration est assez classique, et elle indique probablement que l'enfant naturel arriva tardivement, après une adoption sans doute décidée par crainte de rester sans descendance. Le maître eut quant à lui au moins un descendant à la personne de Sun De, mais on ne sait pas s'il était son fils ou son petit-fils. On sait simplement qu'il était un descendant des Sun qui avait acheté le père de Sun Xiao et Sun Zong. Et nous savons également qu'une soixantaine d'années s'était écoulée entre la signature du contrat de servitude et le conflit opposant Sun De au fils de Sun Chan. Le conflit exposé dans cette affaire se déroula en deux temps. Il s'articule autour d'une question qui n'est jamais clairement posée, mais que l'on arrive facilement à discerner et que l'on pourrait formuler ainsi. Attendu que le père de Sun Xiao et Sun Zong avait accepté de se vendre à la famille de Sun De, Xiao et Zong doivent-ils être considérés 60 ans après comme étant eux-mêmes les dépendants de Sun De? Donc on voit là la question qui se pose, est savoir si l'hérédité était automatique et si en tant que descendant d'indépendant, les fils étaient eux-mêmes contraints à rester dépendants de la famille qui avait acheté leur père. Donc on peut dire les choses plus simplement, Sun De était-il simplement le maître de Sun Xiao et Sun Zong? Mao Yilou ne revient pas sur les accusations qui furent successivement portées, mais voici ce que l'on sait de l'affaire. Tout commença lorsque Tia, donc le fils adoptif de Sun Cheng, tomba gravement malade. Craignant de ne pouvoir mettre la main sur les biens de son frère adoptif, Zong s'arrangea pour pousser Sun De à déposer une plainte contre Tia. J'espère que vous me suivez. Donc, un des deux frères, qui veut récupérer le magot, pousse le descendant du maître de son père à porter une plainte contre son frère. Pour quel motif, peut-on se demander? Le document ne le précise pas. Sans doute parce que pour Mao Yilou, ce problème était accessoire au ressort de l'affaire. La question, en effet, est réglée en première instance. Le magistrat du district de Qingpu estima que Tiao avait depuis longtemps établi son propre foyer, Donc il avait Zi Li Men Hu, donc vous l'avez dans la liste du vocabulaire aussi. Et donc, ayant établi son propre foyer, Te ne pouvait pas être considéré comme son maître. Le constat est limpide et Mao Yilu semble y souscrire totalement en rappelant que 60 ans avaient passé, que depuis fort longtemps chacun avait établi son propre foyer et que Te n'était donc pas le maître de Qia. Il dit clairement Xian Shen De Fei Qiao Zhu. Donc clairement, d'après les investigations menées par le magistrat du district ou de la sous-préfecture, Te n'était pas le maître de Qia. Ce faisant, le magistrat de Qingpu, chargé de juger l'affaire en première instance, balaya d'un revers de main les prétentions de Sun Chen. Cependant, tenant compte du fait que l'ancien contrat du père de Qiao, Sun Chen, existait encore, je vous renvoie à la phrase, donc Qiao Fu, Sun Chen, Jiu Qi Yu Cun. Donc étant donné que ce contrat existait encore, il jugea nécessaire d'offrir une compensation à Sun Te. En condamnant Sun Xia à lui verser deux taël, deux liens, afin, dit-il, que se manifeste quelque peu l'intention des rites. Il dit « Yi shao shi xi yang zhi yi ». Donc, vous l'avez également dans les listes. Attendu ensuite que Xia était seulement le fils adoptif et donc le fils naturel de Cheng, il considéra que la loi ne pouvait s'appliquer exclusivement à Tiao, donc le fils adoptif, et ignorait le fils naturel. Donc en condamnant le fils adoptif à une compensation aux descendants du maître, j'espère que vous me suivez, il ne pouvait appliquer cette peine uniquement au fils adoptif. Il estima qu'il était nécessaire que les deux frères, et donc le fils adoptif et le fils naturel, se partagent ce qu'on pourrait considérer comme une compensation. L'affaire aurait pu s'arrêter là, évidemment c'est toujours plus compliqué. En raison de sa pauvreté et de sa cupidité, mais aussi parce que les deux frères n'avaient pas voulu le payer, Sun Te déposa une nouvelle plainte, cette fois-ci contre Sun Zong, donc contre le fils naturel, avec qui il était allié au début. C'est à ce moment que Mao Yilu fut saisi de l'affaire, et une fois de plus, il n'indique pas précisément quelle accusation Sun Te portera contre Sun Zong. On ne sait pas sur quels critères il l'accusa et ce dont il l'accusa. Nous savons simplement que, pour soutenir cette accusation, il fit de nouveau appel au contrat de servitude signé par le père des deux frères, et Mao Yilu refusa de souscrire à ses arguments. Pour lui, Sun Te faisait usage d'un... C'est ce qui est intéressant, il faisait usage... d'un bout de papier illisible, vieux de plusieurs décennies, à seule fin de faire d'autrui son dépendant génération après génération. Ce qui pour lui dénotait à la fois son avidité et sa stupidité. D'autant plus, argumenta-t-il, que jamais ce contrat n'avait été produit auparavant, même dans des circonstances où il aurait dû l'être. Parce qu'entre-temps, l'épouse du maître, enfin du dépendant décédé, s'était remariée. Et en tant que maître, en tant que la famille de Sun Chen, aurait dû faire valoir le contrat, puisque le mariage d'un dépendant ou d'une servante était une prérogative du maître ou de la famille du maître. Donc lorsque la femme du dépendant se remariait après le décès du dépendant, le maître devait faire valoir son contrat et faire valoir ses droits. En tant que chef de famille, c'était à lui de remarier l'épouse. J'espère que vous me suivez encore. Donc pour lui, pour Mao Yilu, la présentation de ce contrat revient à présenter un faux document, Wang Nie Wei Quan, et à raconter n'importe quoi, littéralement à raconter des fantômes et à raconter des rêves. Shuo Gui Shuo Meng. Comme il n'y avait eu... Bon, l'affaire est quand même relativement légère, et comme il n'y avait pas eu ni détournement ni vol de biens, il jugeait l'affaire sans gravité et ne préconisa que de faibles réprimandes à l'encontre de Sun De et Sun Zong. Le principal problème posé par cette affaire étant à ses yeux le désordre engendré par le comportement détestable des deux parties, de Sun De et Sun Zong. Et c'est là-dessus qu'il statua. C'est-à-dire que le jugement rendu par Mao Yilu met très vite de côté les incriminations portées à l'origine de l'affaire, les accusations portées par Sunde, qui s'en est pris successivement aux deux frères, pour statuer finalement sur le désordre engendré par l'affaire. C'est ce qu'il retient à la fin de son jugement, et il statue là-dessus. Comme il n'y a pas eu vol et comme une compensation a été proposée, l'affaire n'a pas grande importance et il propose une peine légère. On ne sait pas ce que c'était, peut-être une bastonnade, je ne sais pas. Rien n'est précisé. Donc ce qui m'intéresse dans une affaire comme celle-ci, c'est ce qu'elle nous apprend des pratiques liées à la servitude, comme je l'ai dit. D'abord, on peut constater que le fait de se vendre à autrui était une pratique courante et parfaitement acceptée. On la retrouve dans de nombreux cas du Yuntian Lue, mais aussi dans d'autres sources de l'époque, sans que personne ne s'en émeut. Pourtant, l'esprit des lois élaborées durant le règne du fondateur des Ming était assez clair à ce sujet. Il interdisait notamment et très strictement à la population ordinaire de posséder des dépendants et limitait le nombre de dépendants que pouvaient posséder justement les fonctionnaires. On avait un barème pour tel grade indépendant. Un fonctionnaire avait le droit de posséder tant de dépendants. Et ceux qui étaient en haut de la hiérarchie pouvaient en posséder une vingtaine ou un petit peu plus, si j'ai bonne mémoire. Mais là c'est moins formel, mais j'ai l'impression que l'esprit des dispositions prises au début de la dynastie voulait que l'asservissement soit exclusivement réservé à un usage judiciaire. En interdisant à la population ordinaire de posséder des dépendants, la seule source pour obtenir, posséder des dépendants était de condamner quelqu'un à la servitude. Mais un cas comme celui-ci prouve néanmoins que cette loi ou ces dispositions, ou l'esprit de ces lois et de ces dispositions était largement tombé en désuétude. Et si Mao Yilu rejette la présentation du contrat, ce n'est pas parce que c'est illégal pour lui. C'est en raison des tenants et des aboutissants de l'affaire elle-même, mais pas en raison du fait que quelqu'un s'était vendu. C'est quelque chose qui était parfaitement accepté. Il est aussi frappant de constater que l'adoption était une pratique répandue parmi les dépendants. On considère habituellement que les catégories inférieures étaient moins concernées par les obligations rituelles que ne l'était la population ordinaire. Mais le nombre important des cas d'adoption présents dans le Yuntian Yanlue et des cas d'adoption par des dépendants laisse quand même perplexe. On se souciait sans doute moins des obligations rituelles des dépendants dès lors qu'il ne s'agissait pas de régir leur rapport avec la société ou la famille de leur maître. Tant que ça restait dans la sphère des dépendants, on estime que les obligations rituelles pesaient moins lourd sur la vie ordinaire des dépendants eux-mêmes, même si ces aspects rituels étaient beaucoup plus importants dans les relations qu'ils avaient avec la famille de leur maître et avec la société en général. Et il faut donc croire à voir le nombre de cas, et ce n'est pas juste deux, on en a au moins 6 ou 7 sur cette longue liste de cas concernant des dépendants. Ce nombre de cas dans lesquels des dépendants adoptaient des fils est quand même intéressant. Il faut croire qu'ils se souciaient et qu'eux-mêmes se souciaient quand même des obligations rituelles et qu'ils tenaient malgré tout à maintenir leur lignée en s'assurant une descendance. On retrouve ce phénomène par exemple dans un autre cas où il est précisé que l'adoption était destinée à assurer les vieux jours d'un père adoptif qui lui aussi était dépendant. Mais je ne peux m'empêcher d'y voir aussi la volonté des dépendants de se conformer aux obligations rituelles aux mêmes obligations rituelles que le reste de la population. Ce qui tendrait à prouver que les dépendants eux-mêmes ne se considéraient pas comme des exclus de la société et de ses normes, ni comme liés à perpétuité à un maître de par leur statut. Mais là, ce sont des supputations. Ce cas fait aussi ressortir des données intéressantes sur les questions de l'émancipation des dépendants, sur la pérennité et l'hérédité de leur statut, ou sur la validité des contrats, mais aussi sur la nature du lien qui les unissait à leur maître. Si en première instance le magistrat de Qingpu refuse de reconnaître Sunde comme le maître de Suntia, il exige en revanche que ce dernier lui verse une somme d'argent. D'une part parce que le contrat signé par son père existait toujours, et d'autre part pour manifester l'intention d'hérite, comme je l'ai dit. Ce qui constitue pour moi une forme de compensation, je l'ai déjà dit, même si elle est largement inférieure aux tarifs de rachat des dépendants qui sont mentionnés dans d'autres cas. Là, Mao Yilu propose deux liens, et dans un autre cas, par exemple, lorsqu'un dépendant est autorisé à se racheter, le tarif est fixé à 40 taels, à 40 liens. Donc le nœud de cette affaire vient sans doute de ce que l'émancipation de Sun Cheng et de ses fils n'avait jamais fait l'objet d'une décision formelle. En possession du contrat, Sun Te pouvait donc faire valoir ses droits sur les descendants d'un dépendant de sa famille. Mais il reconnaît d'autre part que la séparation objective des dépendants et l'établissement d'un foyer séparé constituaient une cause de rupture du lien d'obligation. C'est le lien yi, c'est la rupture du lien d'obligation, c'est le principe qu'on nomme yi tué, qui est le même que pour le divorce. En proposant cette compensation, le magistrat s'efforce, à mon avis, de satisfaire les deux parties. Le fils du maître reçoit une compensation symbolique et les fils du dépendant voient leur émancipation formellement entérinée. Puisque le contrat existait, il fallait mettre fin à toute possibilité de conflit ultérieur. Et comme la principale des tâches du magistrat local était de maintenir l'ordre et d'endiguer les conflits ou l'inflation des affaires, il devait lui paraître utile par ce jugement de mettre un terme à une situation ambiguë. Ce cas nous montre également que le statut de dépendant n'était pas mécaniquement héréditaire. Donc, comme je l'ai montré, nous savons que certains contrats prévoyaient explicitement l'extension de la dépendance à toute la descendance d'un dépendant. En l'absence d'une telle clause dans le contrat ou d'une disposition fixant un terme à la servitude, il est probable qu'il était quand même considéré comme héréditaire. Toutefois, et c'est ce que montre ce cas, pour que le lien de servitude se maintienne, il fallait qu'il corresponde à une réalité. Posséder un contrat ne suffisait pas. Un contrat de servitude était la preuve d'un engagement entre un dépendant et son nouveau maître. Par celui-ci, chacun s'engageait à se conformer à son rôle et à se soumettre à un lien d'obligation mutuelle. Mais si ce lien était rompu ou venait à s'estomper de lui-même dans la pratique, comme dans le cas qui nous intéresse, les dispositions du contrat pouvaient être jugées caduques. Et c'est ce qui se passe dans cette affaire. La servitude n'était donc pas une simple convention juridique. Elle reposait sur des considérations éthiques et rituelles qui devaient se traduire dans la pratique par des attitudes et par des comportements précis. Un contrat était recevable devant un tribunal. Un dépendant qui fuyait la famille de son maître, et si le maître s'y opposait, pouvait évidemment présenter le contrat devant le tribunal. C'est un cas qu'on voit par exemple dans le cas numéro 15, où un certain Cao Zhong, qui était peut-être pas utile que je revienne sur un nouveau cas. Donc c'est une chose qu'on voit assez fréquemment. Donc je conclurai rapidement, en ayant fait déjà assez long, pour montrer que un recueil de cas comme le Yunjian Yalu a quand même un intérêt, non seulement pour l'histoire judiciaire, mais aussi pour l'histoire sociale de la Chine. On n'en est qu'à nos débuts de l'exploitation de sources comme celle-ci, et pour un sujet comme celui qui m'intéresse, qui est les formes de servitude à cette époque, il est quand même très important et révélateur d'un certain nombre de choses. Merci. Je commencerai par une affaire qui...